C'est tout, le podcast.
Interview du directeur Thibaut Banger
par Salma Adeli, Youssouf et Yanis.
Bonjour Monsieur Banger, comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci. Je suis content de recevoir les élèves pour discuter un petit peu de l'école.
D'accord. Première question. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
Ce que j'aime le plus dans mon métier de directeur d'école, c'est d'aider les élèves qui en ont le plus besoin. Et c'est de trouver des solutions avec les élèves, en discutant avec eux, avec les enseignants, avec les parents. Parce que pour trouver des solutions, pour aider les élèves, il faut que ce travail en équipe il soit fait avec beaucoup de dialogue et de communication. Donc c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier.
Je suis content que c'est la chose que vous préférez le plus.
Pourquoi tu es content de ça ?
Car plusieurs élèves aiment bien vous parler.
Bah, si tu as entendu ça, je suis content. C'est presque la plus belle gratification qu'on puisse me faire.
De rien.
Parce que c'est vraiment un objectif.
Deuxième question. Allez-vous organiser des activités, de nouvelles activités cette année ?
Ça dépend ce que vous entendez par activité.
Comme une course avec tous les élèves de l'école,
alors,
par exemple.
Ouais, ces projets-là qui sont vecteurs de beaucoup d'apprentissages de la vie, les apprentissages de manière très générale, on va continuer à faire. Donc on va continuer à faire les Olympiades, on va continuer à faire les journées pour sensibiliser au handicap. On va évidemment continuer à faire les expositions et les journées spécifiques pour la lutte contre le harcèlement. Et la course dont tu parles, c'est une course qui nous tient à cœur parce que c'est la course pour l'association ELA qu'on organise au mois de mai dans les jardins du Trinitaire avec les élèves de l'UEP. Donc c'est un moment rassembleur où on est tous ensemble autour d'une même cause. Et donc, ces moments-là vont continuer à prospérer dans l'école tant que je serai là en tout cas.
D'accord. À votre avis, les élèves se sont améliorés ?
Élèves, adultes, je pense qu'on est tous là pour s'améliorer. On est tous à un niveau différent. Et l'intérêt, c'est de se cibler des objectifs qui soient réalisables et pouvoir progresser tout au long de sa vie. Donc, dans ta question, il y a « est-ce que les élèves se sont améliorés ?» Oui, mais pas que. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore collectivement, vous enfants, nous adultes, pour faire en sorte que tout le monde grandisse ensemble. Parce qu'il n'y a pas que vous qui avez le devoir de progresser. Nous aussi, on a le devoir de progresser. Pour vous.
D'accord. Merci pour cette réponse. Maintenant, quatrième question. Quelles sont les difficultés que vous traversez chaque jour dans votre métier ?
Les difficultés. C'est un mot qui est difficile, ça. Le mot difficulté. C'est un mot qui est grave. Moi, je parle plus d'obstacles que de difficultés. Ce qui peut constituer des obstacles aujourd'hui, c'est que il faut arriver à faire comprendre à tout le monde de manière différente, parce que chacun entend les choses de manière différente, en fonction de ce qu'il sait de la vie, en fonction de comment il a grandi, dans quelle famille les élèves évoluent, mais les parents aussi, s'ils ont des tracas particuliers ou s'ils ont une histoire plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Le devoir de l'école, c'est de s'adapter pour faire en sorte que les messages soient entendus par tous. Donc, la difficulté, en tout cas, là où il faut se concentrer, c'est sur ça. C'est-à-dire faire comprendre à tout le monde que l'école, c'est un lieu où on se rassemble pour apprendre. Et que pour apprendre, il faut tous qu'on se respecte, il faut tous qu'on dialogue. Mais nous, les maîtresses, les maîtres, moi, le directeur d'école, on doit adapter nos messages en fonction de qui on parle. Parce qu'évidemment, je vais pas traiter les sujets de la même manière avec les maîtres, avec les maîtresses, avec les élèves et avec les parents. Il faut s'adapter en permanence. Donc, elle est là, la difficulté. Passer un message commun, mais en s'adaptant en fonction du public avec lequel on doit communiquer.
D'accord. C'est quoi les choses les plus importantes qu'il faut connaître ?
La valeur du travail. Et là, je le dis avec pas beaucoup d'hésitation. Plus on apprend, plus on a conscience qu'il y a des choses à apprendre. Moi, ça fait longtemps maintenant que je suis directeur d'école. Vous avez vu que je suis un petit peu plus vieux que vous. Et je continue à apprendre tous les jours. J'essaye d'apprendre sans cesse, parce qu'on a tout le temps des choses à découvrir. Et pour ça, il faut avoir conscience que pour apprendre, il faut faire des efforts. Il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas penser qu'on sait tout. Et il ne faut pas penser que tout est insurmontable. À chaque difficulté, on peut s'adapter, trouver une nouvelle stratégie et apprendre différemment. Mais l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on progresse tous en fonction du parcours qu'on a déjà engrangé. Donc voilà, pour répondre à ta question.
D'accord.
Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit?
Oui.
Parce que là, je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu... Enfin, pas assez clair pour toi. Si?
Si.
D'accord.
Très bien. Allez-vous changer des choses cette année?
Cette année, c'est un peu une année de stabilité. On a changé énormément de choses dans l'école ces dernières années. Et là, on est plutôt dans, avec les maîtresses et les maîtres, dans une année où on améliore encore un petit peu tout, mais on ne fait pas de gros chantiers, il n'y a pas de grosse évolution. Avant, il n'y avait pas de marché de Noël, maintenant, il y a un marché de Noël. Avant, il n'y avait pas d'événements comme la Coursella, maintenant, il y a une Coursella. Les échecs à l'école, avant, ça n'existait pas. Maintenant, il y a Gilles qui fait partie de l'équipe, presque. Il y a Ludovic qui vient faire ses projets musicaux avec les CE2, les CM2. Il y a les maîtresses qui travaillent et qui échangent leurs services pour aller de classe en classe. Il y a votre magazine, vos podcasts. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des classes qui vont à la Cité de la Musique. Il se passe énormément de choses. Et c'est précieux parce que tout tourne autour de la culture. Et donc, on apprend tous collectivement. Donc, il ne va pas y avoir de grands changements supplémentairement. Parce qu'il faut savoir ensuite maintenir ce qu'on a mis en place pour faire en sorte de l'améliorer.
C'est-à-dire de ne pas faire d'énormes changements, mais d'essayer d'améliorer petit à petit ce qu'on a déjà.
Exactement. Parce que à trop vouloir mettre en place des projets qui sont complètement différents ou à trop vouloir changer tous les ans de projets ou d'idées, il n'y a pas de continuité. On ne peut pas continuer à construire par-dessus nos projets. Et donc, on ne gagne pas forcément en compétences ou en clarté. Alors que moi, j'adore cette école où on parle de la différence et qu'en fait, il faut éviter la différence et faire en sorte qu'on soit tous égaux avec les élèves de l'UEP, avec nous, avec les élèves qui ont des difficultés, avec les élèves qui n'en ont pas. Voilà, qu'on soit tous dans le respect les uns les autres, qu'on apprenne à vivre ensemble, tous ensemble. Le sport, énormément d'activités sportives avec les Olympiades, avec la Coursella, avec la journée qu'on a fait pour le sport scolaire au mois de septembre, avec les randonnées vélo, et puis la culture avec la musique, avec les échecs, avec la Cité de la Musique, avec votre magazine, le journal. Et tout ça, ça se construit sur le long terme. Donc, il ne faut pas qu'on change d'idée tout le temps.
Merci pour cette réponse extrêmement importante. Et ma dernière question, comment les maîtres ou maîtresses peuvent gérer des classes de CE2, CE1? Car certaines classes comptent des CE2 et des CE1 à la fois. Est-ce que c'est pour initier les CE1 à leur stage de CE2?
Alors, c'est une très bonne question. Mais il n'y a pas de CE1, CE2 dans l'école. Il y a un CPCE1. Et en fait, dans ces classes-là, les maîtresses font des activités d'apprentissage avec le groupe de CP à un certain moment. Et ensuite, les CP font du travail en autonomie pendant qu'elle va s'occuper des élèves de CE1. Je crois que ça se passe le mieux possible. On essaye d'y mettre des élèves qui sont des élèves autonomes, qui n'ont pas tout le temps besoin de l'aide de la maîtresse en permanence pour entrer dans les situations d'apprentissage, dans les exercices, dans le travail qui peut être demandé. Et donc, oui, ça nécessite pour la maîtresse de bien réfléchir à comment elle va organiser sa journée, parce que si ce n'est pas anticipé, si elle n'a pas énormément travaillé pour tout bien préparer, effectivement, c'est plus difficile. Donc, il faut vraiment tout préparer, presque minute par minute. Et ça, c'est des choses que les parents n'imaginent pas, et les enfants non plus, les élèves non plus. Le travail de tous les maîtres, toutes les maîtresses, c'est énormément de recherche, énormément de préparation pour ensuite pouvoir faire la classe le mieux possible.
Merci de nous avoir répondu, Monsieur Branger.
C'est moi qui vous remercie parce que les questions, elles sont très intéressantes. Elles sont presque du niveau de questions que je peux avoir, par exemple, en conseil d'école avec des parents, donc avec des adultes. Je suis content que vous ayez ce niveau de réflexion et de pensée.
Je suis impressionné. Bravo à vous.
Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Depuis quand êtes-vous directeur de cette école ?
Je suis arrivé dans cette école en tant que directeur à une magnifique année. C'était les années Covid, donc des années un petit peu difficiles. Donc moi, je suis arrivé ici en septembre 2020.
Vous avez fait d'autres écoles ou pas ?
Oui, j'ai fait d'autres écoles. J'avais été directeur d'une autre école avant. Et puis, sur les années précédentes, j'étais maître dans une autre école.
D'accord.
Donc oui, j'ai été dans des classes et dans des écoles avant de venir au Luxembourg, évidemment.
D'accord, merci. Alors, numéro 2, comme question, quel est le rôle d'un directeur ?
Le rôle d'un directeur, ou quels sont les rôles ?
Quels sont les rôles ?
Quels sont les rôles d'un directeur d'école ? C'est une question qui est compliquée, parce que le directeur d'école, il est au point convergent, au croisement, si vous préférez, de tout ce qui se passe au sein de l'école. Donc, je dois donner des idées, je dois aider, je dois écouter, je dois conseiller, je dois des fois poser des règles, les faire respecter, faire en sorte qu'elles soient comprises aussi, et tout ça au service de l'apprentissage des élèves. Donc, c'est une réponse à laquelle je pourrais vous parler dans les détails pendant une heure, d'accord ? Et bien plus. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment un petit peu comme vous, le délégué de classe, qui a cette mission de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que s'il y a des difficultés, et il y en a toujours dans la vie, eh bien, c'est par le dialogue, par la réflexion, qu'on arrive à trouver des solutions. Et c'est un petit peu ça le rôle du directeur d'école, avec ce que je disais tout à l'heure à tes camarades, avec cette vision, cette constance pour faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité afin de pouvoir apprendre le plus possible dans l'école.
D'accord.
Et progresser.
Question numéro 3. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre école, dans l'école du Luxembourg ?
Moi, je me sens extrêmement bien dans l'école du Luxembourg pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a un public qu'on dit hétérogène. Alors, un public hétérogène, ça veut dire des familles qui viennent de tous les horizons, aussi bien en termes d'origine sociale et aussi en termes d'origine les pays. Et ça, c'est une richesse. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés en France, qui ont des parents qui sont nés en France, mais il y a aussi des enfants qui sont nés en France avec des parents qui sont nés à l'étranger. Et puis on a aussi des enfants qui sont nés à l'étranger et puis qui arrivent pour la première fois en France, ils ont 10 ans, et donc du coup, il faut les aider. Et ça, c'est notre quotidien. Donc voilà, ce côté hétérogène de l'école me plaît beaucoup. C'est aussi ce qui rend difficile des fois. Il y a aussi les élèves qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas les mêmes besoins que vous forcément. Et donc, il faut aussi s'adapter. Donc, ça, c'est la première raison. C'est l'hétérogénéité de l'école qui me plaît. Et ce qui me plaît aussi, ce qui fait que je me sens bien ici, c'est que l'école, en 5 ans, je l'ai vu énormément évoluer. Et là, aujourd'hui, je suis très, très fier d'où est-ce qu'on est arrivé tous ensemble. Et de la qualité de tous les projets qui sont mis en place, de la qualité des enseignements qui vous sont prodigués, du climat scolaire qui est globalement très bon, même si des fois, il y a des difficultés, mais... Vous l'avez dit tout à l'heure, les élèves ils sont contents de venir discuter avec moi. Dans les cours de récréation, il n'y a quasiment pas de conflits. Ça se passe de mieux en mieux, en tout cas. On sent que c'est une école qui est apaisée, où les élèves ils ont compris qu'ils pouvaient évoluer en toute confiance pour apprendre. Et je le sens aussi chez les maîtres et les maîtresses. Donc ça me rend assez fier d'être directeur de cette école.
Ben nous, parfois, notre classe, les vendredis, on aide en situation de handicap. Même si on a Ishak, il fait sa leçon. Après, quand ils vont jouer, nous, on part les aider. On fait la danse avec eux. Parfois, on fait de la peinture avec eux.
Ben ça me rend fier. Parce que avant, ça n'existait pas, l'UEP. Vous savez que la structure UEP, c'est une des premières de France à avoir été ouverte. Et c'est nous qui l'avons fait avec les services de la mairie de Meaux, avec tous les adultes qu'on peut venir nous aider à ouvrir cette structure. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs aussi en Seine-et-Marne. Mais avant, quand on a ouvert, c'était la première de Seine-et-Marne et c'était, je crois, la deuxième de France ou la troisième. Enfin, en tout cas, on était dans les premiers. Et là, ce que vous me dites, c'est que c'est normal pour vous. C'est normal pour vous que de sortir de votre classe pour aller faire des projets avec l'UEP. Et donc, ça répond complètement à ta question, c'est-à-dire oui, ça me rend fier. Donc oui, je suis fier de travailler dans cette école.
Question numéro 4, quelle est la sanction la plus importante que vous avez faite dans cette école ?
La sanction la plus importante ? Pourquoi poser cette question-là ? pourquoi pas la plus grande fierté, plus que la plus grande sanction que j'ai pu donner. La plus grande sanction, je sais pas. Je pense que vous l'avez compris, vous êtes en CM2, je sanctionne pas, ou peu, et j'essaie de faire comprendre. Des fois, c'est plus ou moins difficile. Des fois, il faut se répéter. Des fois, il faut ne rien lâcher. Et vous savez que je ne lâche rien. Mais je n'ai pas eu à mettre en place une grosse sanction. Par contre, j'ai eu à embêter des élèves parce qu'ils étaient respectueux, à recevoir leurs parents, à les convoquer une fois, deux fois, trois fois, à ne jamais rien lâcher. Pourquoi ne jamais rien lâcher ? Parce que c'est pour le bien-être de tous. Il faut que tout se passe bien. Donc, quand il y a des élèves qui ne respectent pas les autres, quand il y a des élèves qui ne respectent pas les règles, ça vient embêter les élèves qui ont envie d'apprendre, qui sont là pour apprendre. Et donc ça, je ne laisse pas passer. Mais je ne le fais pas par la sanction. Ça prend beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est plus efficace que de ne rien lâcher et d'expliquer, réexpliquer, contraindre, s'il faut, l'élève à finir par comprendre. Voilà. Par des exercices de rédaction, par le fait de convoquer les parents pour essayer de trouver des solutions, pour, si ça ne fonctionne pas une fois, deuxième convocation, troisième convocation, enfin bref. On ne s'arrête pas tant que ça ne s'améliore pas.
D'accord. Cinquième question. Qu'est-ce qui manque pour améliorer l'école ?
Qu'est-ce qui nous manque pour améliorer l'école ?
Il nous manque plus de professeurs. Il nous manque plus de professeurs. Il nous manque du temps. Il nous manque de l'aide. Par exemple, si on avait des adultes supplémentaires qui soient, par exemple, des professionnels de la santé pour venir nous aider les élèves, eh bien, ça pourrait grandement faciliter les choses. Mais ça, c'est un monde idéal qui n'existe pas, malheureusement. Plus de maîtresses, avoir des maîtresses qui puissent venir en classe pour aider des groupes d'élèves à besoin, pour faire en sorte qu'il y ait pas des CE2 avec 28 élèves dans la classe, pour faire en sorte que si on voit qu'il y a un élève qui se sent pas bien ou qui est en difficulté, il puisse tout de suite aller voir la psychologue de l'école parce qu'elle est tout le temps là, avoir un orthophoniste. Voilà, ce serait le pays rêvé, c'est-à-dire de pouvoir avoir une équipe avec plein de métiers autour de l'enfance à nos côtés pour qu'on puisse répondre tout de suite aux besoins des élèves. Ça, ce serait le monde parfait, le monde idéal. Et donc nous, comme on a ça, on est obligé de s'adapter.
Alors moi aussi, j'avais proposé un podcast pour ramener, je crois qu'on fait aussi des élus pour ma classe. Et le maître, je crois qu'il vous en a parlé.
Eh bien, le maître m'en a parlé, il a bien fait. Je trouve que l'idée est formidable. Donc, j'ai transmis votre demande et je crois savoir que M. Copé est à l'écoute de ça. Et je ne peux rien vous promettre parce que je ne peux pas parler à sa place et que je n'ai pas encore une réponse officielle. Mais je sais qu'il y a une discussion autour de ce sujet et je croise les doigts avec vous pour que vous puissiez réaliser ce rêve. Voilà. J'ai pas l'habitude de mentir, donc quand je ne détiens pas la vérité, quand je ne suis pas sûr de moi, vous le savez, je vous dis je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Et bien là, je ne sais pas encore, mais par contre j'ai posé la question et j'espère que ça va pouvoir se faire, mais comptez sur moi pour relancer si besoin.
D'accord, dernière question, y a-t-il une fête pour nous les samedis à la fin de l'année quand nous on part au collège?
Alors ça c'est, je comprends la question, je comprends tout à fait cette question, mais je n'y répondrai pas parce que
c'est une surprise.
Non, c'est pas que c'est une surprise. C'est que je prends jamais des décisions comme ça sans y réfléchir et sans en parler avec toutes les personnes concernées. D'accord ? C'est ce qui fait que des fois, c'est un peu plus long quand on passe par le dialogue, mais c'est aussi comme ça qu'on apporte la meilleure réponse. Là, vous, en fait, là, c'est une demande, si j'ai bien compris. D'accord ? Il n'y a rien d'organisé, ça ne s'est jamais fait dans l'école. Sur les années précédentes, on a fait des cérémonies. Peut-être y aura-t-il une cérémonie cette année ? Mais ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est votre maître qui vous le dira en moment voulu, si on fait ou si on fait pas. Là, c'est pas encore complètement validé ou invalidé. Il faut qu'on échange avec les deux maîtresses de CM2 et votre maître. Parce que si on fait une cérémonie pour les CM2, il faut que ce soit pour tous les CM2. Parce que quand je fais en sorte, quand je mets des projets en place dans l'école, il faut que ça concerne tous les élèves.
Bah, merci d'avoir répondu à moi, Yannis, de ces questions.
Merci à vous pour la qualité des questions, parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver les questions, de trouver les mots, et vous avez trouvé les bons mots pour poser les bonnes questions. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Et très difficile aussi, parce que c'est pas un exercice dont on a l'habitude. D'habitude, on parle de manière un petit peu plus spontanée. Et là, on est avec les micros, avec les casques. On sent que vous vous êtes tellement investi que c'est important pour moi de vous prendre au sérieux. Parce que vous avez fait un travail très sérieux. Bravo pour vous.
Merci.
Pour votre travail, pardon. Bravo pour votre travail.
Je tenais à vous féliciter particulièrement parce que votre qualité de question, la qualité dont vous avez oralisé vos questions écrites, la capacité à écouter, à attendre les réponses, à ne pas se précipiter, vous avez 10 ans et c'est déjà une posture qui est très professionnelle. J'écoute beaucoup la radio parce que je trouve que dans les émissions de radio, on prend plus le temps pour exposer les situations. Je trouve que l'oreille est plus attentive et qu'on va plus dans le fond des sujets. La radio et lire, pour moi, c'est vraiment deux choses qui m'intéressent le plus. Je trouve que les images, la télé, les images que vous pouvez voir sur YouTube ou sur les canaux comme ça différents, je trouve que ça biaise un petit peu. La réflexion, ça va trop vite. Et là, vous avez pris le temps de poser des questions. Vous avez laissé le temps de développer les réponses. Et ça prouve que vous avez fait un travail vraiment important. Parce que c'est pas naturel pour vous, c'est pas votre métier. Et pour ça, je voulais vous féliciter, vous quatre, mais aussi votre maître et vos camarades de classe, parce que ça s'est pas fait tout seul. J'imagine la charge de travail énorme qu'il peut y avoir derrière.
Moyenne, ce matin, toute seule les questions, et après ça, et le micro, c'est le next.
Oui, mais puis la préparation du magazine, le journal, enfin, je veux dire, des illustrations. J'ai vu tout ce qui est engagé depuis le mois de septembre. Je sais ce que vous faites, parce que j'échange beaucoup avec votre maître, ça m'intéresse ce que vous faites. Donc, je sais qu'il y a un gros travail, et c'est porteur de sens. Vous utilisez la langue française qu'on vous apprend, les codes de la langue française, d'une manière prodigieuse, là. Et je voulais vous remercier pour ça. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez appris depuis la maternelle, vous le mettez au service d'une finalité qui est la transmission d'un savoir, là, à travers un podcast. Donc, bravo pour ce travail.
Merci.
Thank you.